Il était une fois.
Je marchais dans la rue.
Il y avait chapitre 1.
Le retour de Jeanne Fontaine.
Je l'avance en réveil de son carré.
Bonjour, c'est Nadia sur Neptune FM. Bienvenue dans notre chronique hebdomadaire littéraire à deux voix. Cette semaine, nous allons partager un temps de lecture et partager les coups de cœur littéraires de chacun en compagnie de Ninon. Bonjour Ninon.
Bonjour.
Et en compagnie de Roxane.
Bonjour.
Bonjour Roxane. Pour cette première semaine des vacances, nous avons choisi un roman jeunesse intitulé « Tistou les pouces verts ». Écrit par Maurice Druon et illustré par Jacqueline Duhem aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors cette histoire a été écrite en 1957 et n'a pas pris une ride. C'est un conte philosophique qui aborde avec poésie, tendresse et douceur des questions importantes à travers les yeux d'un petit garçon. Sans être moralisateur, Tistou véhicule de belles valeurs répondant à la violence et l'étroitesse parfois d'esprit des adultes par la générosité et l'amour. Alors un rapide petit résumé avant de commencer avec les filles. Tistou est un petit garçon qui n'admet pas que les grandes personnes lui explique le monde à l'aide d'idées toutes faites. Et comme il ouvre, c'est la vertu essentielle de l'enfance, un œil neuf sur les êtres et sur les choses, il met souvent en déroute le raisonnement des grandes personnes qui ont le jugement faussé par les lunettes de l'habitude. Tistou vit heureux dans la maison qui brille, avec Monsieur Père et Madame Mère, ses parents riches et beaux, et son petit poney gymnastique. On va donc laisser la parole à Ninon pour commencer.
Chapitre 4, où Tistou est envoyé à l'école et n'y reste guère. Jusqu'à l'âge de 8 ans, Tistou ignora l'école. Madame Mère, en effet, avait préféré commencer elle-même l'instruction de son fils et lui enseigner les rudiments de la lecture, de l'écriture et du calcul. Les résultats, il faut en convenir, n'étaient pas mauvais. Grâce à de très jolies images achetées spécialement, la lettre A s'était installée dans la tête de Tistou, sous l'apparence d'un âne, puis d'une alouette, puis d'un aigle. La lettre B, sous la forme d'une bille, d'une boule, d'un ballon, etc. Pour le calcul, on se servait d'hirondelles posées sur des fils électriques. Tistou avait appris non seulement à additionner ou à soustraire, mais il parvenait même à diviser, par exemple, 7 hirondelles par 2 fils, ce qui produit 3 hirondelles et demie par fil. Comment une demi-hirondelle pourrait-elle se tenir sur un fil électrique? Cela, c'est une autre affaire que tous les calculs du monde n'ont jamais pu expliquer. Lorsque Tistou atteignit son 8e anniversaire, Madame Mère considéra que sa tâche était terminée et qu'il fallait confier Tistou à un véritable professeur. On acheta donc à Tistou un très joli tablier à carreaux, des bottines neuves qui lui serraient les pieds, un cartable et un plumier noir décoré de personnages japonais. Un cahier à grandes lignes, un cahier à petites lignes, on le fit conduire par le valet Carolus à l'école Mirepoil, qui avait une très bonne réputation. Tout le monde s'attendait à ce qu'un petit garçon si bien vêtu, qui avait des parents si beaux et si riches, et qui savait déjà diviser les hirondelles par moitié et par quart, tout le monde s'attendait à ce que ce petit garçon-là fît des merveilles en classe.
Hélas, hélas, l'école eut sur Tistou un effet imprévisible et désastreux. Lorsque s'ouvraient des lettres qui marchent au pas sur le tableau noir, lorsque commençait à se dérouler la longue chaîne des 3x3, des 5x5, des 7x7, Tistou éprouvait un picotement dans l'œil gauche et tombait bientôt profondément endormi. Il n'était pourtant ni sot, ni paresseux, ni fatigué non plus. Il était plein de bonne volonté. « Je ne veux pas dormir, je ne veux pas dormir !» se disait Tistou. Il vissait les yeux au tableau, collait ses oreilles à la voix du maître, mais il sentait venir le petit picotement. Il essayait de lutter par tous les moyens contre le sommeil. Il se chantait tout bas une très jolie chanson de son invention. Un quart d'hirondelle, est-ce que c'est la patte ou est-ce que c'est l'aile? Si c'était la tarte, j'en couperais 4. Rien à faire, la voix du maître se changeait en berceuse. Il faisait nuit sur le tableau noir. Plafond chuchotait à Tistou. Psst, psst. Par ici les beaux rêves. À la classe de Mirepoil devenait la classe aux songes.
Tistou ! Criait brusquement le maître.
Je ne l'ai pas fait exprès, monsieur, répondait Tistou, réveillé en sursaut.
« Cela m'est égal. Répétez-moi ce que je viens de dire. »
Six tartes divisées par 2 hirondelles.
« Zéro !»
Le premier jour d'école, Tistou rentra chez lui les poches pleines de zéro. Le second jour, il reçut en punition 2 heures de retenue, c'est-à-dire qu'il resta 2 heures de plus à dormir dans la classe. Au soir du 3e jour, le maître remit à Tistou une lettre pour son père. Dans cette lettre, Monsieur Père eut la douleur de lire ces mots. « Monsieur,
Votre enfant n'est pas comme tout le monde. Il nous est impossible de le garder. » L'école renvoya Tistou à ses parents.
Chapitre 5, où le souci pèse sur la maison, qui brille, où l'on décide pour Tistou d'un nouveau système d'éducation. Le souci est une idée triste qui presse la tête au réveil et y reste accroché toute la journée. Le souci se sert de n'importe quoi pour entrer dans les chambres. Il se faufile entre les feuilles avec le vent. Il se met à cheval sur la voie des oiseaux. Il court le long des fils des sonnettes. Ce matin-là, à mirepoil, le souci s'appelait « Pas comme tout le monde ». Le soleil ne se décidait pas à se lever. « C'est bien ennuyeux de devoir réveiller ce pauvre Tistou », se disait-il. « Dès qu'il aura les yeux ouverts, il se rappellera qu'il aura été chassé de l'école. » Le soleil mit une sourdine à sa dynamo et jeta de petits rayons de rien du tout. Empaquetés de brume, le ciel resta gris au-dessus de mirepoil.
Mais le souci a plus d'un tour dans son sac. Il s'arrange toujours pour se faire remarquer. Il se glissa dans la grosse sirène de l'usine et chacun, dans la maison, entendit cette grosse sirène crier « Pas comme tout le monde ! Tistou n'est pas comme tout le monde !» Ainsi, le souci pénétra dans la chambre de Tistou. « Que va-t-il m'arriver ?» se demanda celui-ci. Et il renfonça la tête dans l'oreiller. Mais il ne put se rendormir. C'était désespérant, avouez-le, de si bien dormir en classe et si mal dans son lit. Madame d'Amélie, la cuisinière, grommelait toute seule en allumant ses fourneaux. « Pas comme tout le monde, Tistou. Et qu'est-ce qui me le prouve ? Il a deux bras, deux jambes, et alors ?»
Et comme les chevaux partagent les soucis des hommes, les pur-sang groseilles eux-mêmes paraissaient nerveux, frappaient leurs bas-flancs, tiraient sur leurs longes. Trois crins blancs avaient poussé au front de belles juments. Seul le poney gymnastique demeurait étranger à cette agitation et mangeait son foin d'un air tranquille en découvrant ses belles dents blanches terminées par un petit as de trèfle. Mais à part ce poney qui jouait l'indifférent, chacun en vérité se demandait ce qu'on allait faire de Tistou. Et ceux qui se posaient la question avec le plus d'inquiétude étaient forcément ses parents. Devant sa glace, Monsieur Père se faisait briller la tête, mais sans joie et par habitude. Voilà un enfant, réfléchissait-il, qui semble plus difficile à élever qu'un canon. Madame Mère laissa glisser une larme dans son café au lait.
« S'il s'endort en classe, comment l'instruire ? » demanda-t-elle à Monsieur Père.
« La distraction n'est peut-être pas une maladie incurable, » répondit celui-ci.
« La rêverie, en tout cas, est moins dangereuse que la bronchite, » reprit Madame Mère.
« Il faut tout de même que Tistou devienne un homme, » dit Monsieur Père.
Après cet échange de fortes paroles, ils se turent un moment. « Que faire ? Que faire ? » pensait-il chacun de son côté. Monsieur Père était un homme aux décisions rapides et énergiques. Diriger une usine de canons vous trempe l'âme. D'autre part, il aimait beaucoup son fils. « C'est très simple. J'ai trouvé, » déclara-t-il. « Tistou n'apprend rien à l'école. Eh bien, il n'ira plus dans aucune école. Ce sont les livres qui l'endorment. Supprimons les livres. Nous allons essayer sur lui un nouveau système d'éducation. Puisqu'il n'est pas comme tout le monde. »
Il apprendra les choses qu'il doit savoir en les regardant directement. On lui enseignera sur place à connaître des cailloux. Le jardin, les champs, on lui expliquera comment fonctionne la ville, l'usine, et tout ce qui pourrait l'aider à devenir une grande personne. La vie, après tout, c'est la meilleure école qui soit. On verra bien le résultat. Madame Mère, avec enthousiasme, approuvait la décision de Monsieur Père. Elle regretta presque de ne pas avoir d'autres enfants auxquels appliquer ce séduisant système éducatif. Pour Tistou, c'en était fini les tartines avalées en hâte, du cartable à traîner, du pupitre où la tête tombe toute seule et des zéros par poignée dans la poche, une nouvelle vie allait commencer. Et le soleil se remit à briller.
Merci les filles pour votre lecture. Alors la suite la semaine prochaine et en attendant, je vais vous poser quelques petites questions. On va commencer d'abord avec toi Ninon. Est-ce que tu peux me dire ce que t'a inspiré cette lecture ?
Moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont, comment dire, je trouve que c'est bien que ses parents, ils prennent les décisions pour lui, son bien-être, et ils auraient très bien pu le laisser à l'école et dans son mal-être. Donc ça, je trouve ça super. Et ça fait réfléchir. Je trouve que l'auteur avait une perception assez en avance sur son temps des choses. Enfin, peut-être que je me trompe, mais moi, c'est comme ça que je me le ressens.
Ouais, non, t'as raison, hein. Ouais, on a l'impression que, ça y est, il a compris qu'il fallait peut-être prendre la vie autrement et pas forcément l'obliger à rester dans un cadre.
Oui, c'est ça.
Et toi, Roxane ?
Moi, je trouve ça très agréable de lire une histoire qui change un peu de l'ordinaire, où l'enfant n'est pas obligé d'aller à l'école pour apprendre et qu'il a une autre manière d'apprendre. Et je trouve ça très inspirant, et de ne pas être obligé de rester élève, c'est aussi une très belle façon d'apprendre.
Très bien, merci. Et les filles, vous avez déjà eu envie de vous endormir, vous, en classe?
Non, pas trop. Bon, le lundi matin, c'est un peu dur, mais il faut tenir la route. Mais ça va.
Ça dépend. Des fois, j'ai un peu les esprits ailleurs, mais...
Ça peut arriver de rêver un peu. Ouais.
Voilà, c'est ça.
Alors, je vais vous demander à chacune ce qui vous a donné le goût de la lecture. Alors, on commence avec toi, Roxane. Est-ce qu'il y a un livre particulier qui t'a donné... Ou est-ce que tu as eu un déclic?
Depuis que je suis toute petite, je lis des livres parce que dans ma famille... Il n'y a pas trop d'écran, etc. Donc, c'est beaucoup les livres. Et le premier livre que j'ai lu, ça s'appelle « La princesse qui n'aimait pas les princes ». Et ça raconte l'histoire d'une princesse qui fait une mayonnaise et que les princes ne sont pas d'accord parce qu'elle fait une mayonnaise. C'est toute une histoire. Et puis après, elle s'enfuit de son château et elle va vivre avec ses chats.
Je pensais qu'elle avait fait une mayonnaise pour empoisonner les...
Mais voilà, c'est
ça t'a marqué.
Et puis je lis toujours. Et pour moi, lire, c'est aussi rêver et partir quelque part.
Ok. Ouais, s'il y avait deux mots pour toi pour décrire la lecture, c'est rêver et...
Et découvrir.
Ok. Merci, Roxane. Et pour toi, Ninon, alors, est-ce que t'as eu... comment t'as eu le déclic de la lecture?
Moi, le premier livre que j'ai lu, c'était un peu avec ma maman tous les soirs. C'était Le Petit Prince. C'était vraiment la Madeleine de Proust. Tous les soirs, on lisait le petit chapitre. Mais je dirais pas que c'est le livre qui m'a le plus, comment dire, donné vraiment le... J'ai toujours lu beaucoup, mais vraiment le livre où je me suis mis à lire vraiment tout le temps, c'est Le Journal d'Anne Frank. C'est vraiment, je l'ai lu en CM2 ou CM1. Et c'est vraiment le livre où je me suis dit, ah ouais, la lecture, c'est quand même un truc dingue. Du coup, depuis, c'est parti.
Parce que du coup, l'histoire, pour toi, il y avait un suspense, était palpitante.
Moi, j'aime beaucoup les parcours de vie dans les livres. Par exemple, comme La vie devant soi, ou voilà, j'aime bien quand ça raconte l'histoire de personnages réels.
Une histoire vraie. D'accord.
Et du coup, Anne Frank, ça me permettait de... J'étais encore petite et ça m'a ouverte aussi au passé et puis au monde, à ce que d'autres enfants vivent. Quand on est sur une île, en plus, on n'a pas toujours beaucoup d'esprit, comment dire, ouvert... à toutes les formes de gens, de personnes.
Ouais, mais... tu voyages, en fait. Hein.
Ouais, voilà.
Et là, en plus, c'est une histoire d'amitié aussi. Enfin,
oui.
Pas que, mais...
Totalement, oui.
Mais donc, ça permet de s'identifier un
carrément,
petit peu.
Carrément, ouais.
T'es allée voir la maison d'Anne Frank?
Pas encore, non. J'ai toujours rêvé d'y aller. Mais ouais.
Elle est très bien.
Oui, elle y est allée.
T'es allée, Roxane.
Et oui.
Pour toi, la lecture en deux mots, ça serait...
Ce serait un peu pareil que Roxane, découvrir et faire voyager, faire réfléchir. Oui.
Alors, est-ce que vous voulez me parler d'un livre en particulier, une lecture, là pour le coup, actuelle, de cet été, que vous voudriez partager ou recommander même aux auditeurs?
Moi, j'ai lu un livre d'une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Anne-Laure Bondou, qui s'appelle « Et nous traverserons les orages ». C'est un très long livre, mais ce livre, il m'a beaucoup marqué. Il est très, très bien. Je le recommande à tout le monde parce que il est long, mais... C'est passé vite pour moi.
Ça vaut le coup.
Exactement.
Tu l'as trouvé à la bibliothèque ou...
me l'a offert parce que j'en avais eu... En fait, j'en ai lu un à la bibliothèque. Et depuis, je suis accro à cette autrice. Et on me l'a offert. Et vraiment, je le recommande.
Je crois qu'il est au CDI du collège.
Oui, aussi.
Ah bah,
et
génial.
À la bibliothèque du primaire. Du Ponant.
Bah, super. Merci. Et toi, Ninon, alors?
Moi, alors, en début de l'été, j'ai lu La vie devant soi de Romain Gary. Un grand classique, mais j'ai vraiment adoré. C'est vraiment un livre que j'aimais trop tous les soirs, avoir mon chapitre et tout. Ça m'a trop... Ouais, je sais pas, j'ai tellement aimé ce personnage, Mohamed, j'ai trop aimé. Et là, je viens de terminer un livre qui s'appelle Christian Reiter, Une femme dans la nuit polaire. C'est sur une femme qui a vécu au Spitzberg. Et c'est vraiment génial. C'est un vrai parcours d'une femme qui est allée rejoindre son mari là-bas dans une cabane. Donc, t'as l'ours polaire qui vient, t'as les tempêtes, ou alors il voit pas la nuit pendant un petit peu moins d'un an. Enfin,
t'as l'impression d'y être. C'est des paysans, là. Ouais.
Ah ouais, ça m'a donné trop envie d'y aller. J'aimais trop. En plus, c'est hyper bien raconté et c'est elle qui a écrit, mais elle écrit hyper bien avec plein de détails et tout, et c'est hyper apaisant.
Bon, bah alors, on a de beaux livres en perspective à lire grâce à vous deux. Merci beaucoup, Ninon et Roxane. On se retrouve la semaine prochaine. Et voilà, merci beaucoup. À la semaine prochaine sur Neptune.